Cher Éric Gross, de nous placer sous le signe de Baudelaire d'entrée de jeu. Nous essaierons d'être à la hauteur, mais enfin, peut-être là, est-ce beaucoup demandé aux intervenants, quels qu'ils soient, en tout cas pour la qualité de l'expression. Je voulais à mon tour brièvement adresser mes remerciements. Bon, d'abord à vous-même, puisque il convient quand même de rendre à César ce qui lui appartient, autant qu'à Baudelaire ses vers, et de dire que si cette manifestation a eu lieu pour la première fois l'an dernier, c'est à votre initiative, à celle de Gennaro et de l'INP dans son ensemble. C'était d'abord votre idée, votre suggestion, et peut-être peut-on dire ce matin, au regard de l'affluence, qu'elle n'était pas trop mauvaise. Vous m'avez fait la confiance et l'amitié de m'associer à ce projet, mais enfin, qu'à même dire que la cheville ouvrière, c'est vraiment l'INP. Premier remerciement. Le deuxième s'adresse évidemment à tous les intervenants, ceux qui sont déjà là, celles et ceux qui sont déjà là. Ma voisine et amie, Laurence Bertrand d'Orléac, Juliette Lafont, celle qui va arriver, Annette Messager, ceux qui viendront demain, qui, de provenance plus ou moins, je veux dire de provenance géographique, plus ou moins lointaine, Joël Pigeaudier de Strasbourg par exemple, nous font elles aussi la confiance et l'amitié de nous rejoindre. Alors, je voudrais dire que deux ou trois mots à mon tour d'une introduction plus générale, sans en parler préalablement, sans nous concerter, nous avons eu tous les deux l'idée de revenir sur le titre. Vous, pour en proposer et réfuter, à juste titre, je crois, un autre que nous n'avions d'ailleurs en fait jamais envisagé, ce qui prouve notre grande sagesse, quant à moi, pour revenir sur cet intitulé, ce qu'exposer veut dire, moins pour le justifier, parce qu'il me semble qu'il se justifie, pour ainsi dire, de lui-même, que pour dire deux ou trois banalités. La première, c'est que exposer, on le prendra ici dans le sens le plus général, c'est-à-dire montrer des objets, qui pourraient d'ailleurs aussi bien être des êtres, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur ancienneté aussi, à des regards et, j'y insiste, à tous les regards. À des regards qui sont éventuellement ceux des savants, mais qui n'ont pas vocation à être exclusivement ceux des savants. Ce phénomène de l'exposition dont nous faisons notre objet d'étude tend à devenir aujourd'hui, pour ainsi dire, enfin, à échapper à toute espèce de clôture. Ce sont les musées, mais pas que les musées. On s'en fout. On expose dans les musées, mais je serais tenté de dire on expose un peu partout. On expose ce qu'on appelle les arts, et on aura la prudence de ne pas s'engager dans une querelle sur la définition de ce mot, mais pas que les arts, ou pas que ce que l'on appelle art. On expose ce qui appartient au passé, mais on expose aussi le présent. Et même quelquefois, on crée pour exposer. On expose ce qui est proche, géographiquement. On expose aussi ce qui est lointain. On en parlera peut-être moins dans cette année que l'on en avait parlé l'année dernière, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, dans l'exposition, et mon énumération n'a pas la prétention d'être exhaustive, sont concernés les artistes, ceux que j'appellerais d'une manière qui est simplement générale, les gens de musée, et par les gens de musée, j'inclus tous ceux que vous avez vous-même cités à l'instant, Cela concerne aussi les universitaires, deux d'entre eux se côtoient. Cela concerne les politiques, cela concerne les juristes, cela concerne les collectionneurs privés, les mécènes, les entreprises, les communicants. Peuvent se trouver dans une position ou l'autre suivant les circonstances, par exemple des artistes qui peuvent être exposés ou commissaires, des universitaires qui peuvent devenir commissaires, des collectionneurs privés allant vers le public. Sont concernés en réalité tous les citoyens, puisqu'ils forment le ou les publics. Le phénomène de l'exposition a une histoire que vous connaissez, qui commence dans les salons, mais cette histoire, chacun le sait également, a gonflé de façon considérable depuis un demi-siècle. Chronologie évasive. S'il y avait jadis des expositions universelles, il existe aujourd'hui une quasi-universalité des expositions à laquelle peu de régions du monde demeurent étrangères. Ces expositions universelles d'autrefois, de même que les salons ou d'autres manifestations, obéissaient à une périodicité annuelle ou plus longue. Il n'y a plus rien de tel aujourd'hui, et les biennales sont si nombreuses qu'il y en a en permanence, de même que les expositions de musées, de fondations, de galeries, d'autres lieux. Autrement dit, nous vivons sous le régime de l'exposition, et ce « nous », s'il réunit particulièrement les professionnels que nous sommes, à des titres divers, réunit tout autant les amateurs, c'est-à-dire les visiteurs. Ce régime n'est naturellement pas sans rapport avec les évolutions générales des sociétés sous l'effet des technologies. Internet est en soi un mode d'exposition universel, permanent, collectif par définition, puisque chacun peut s'y exposer et être le visiteur des expositions d'autrui, c'est-à-dire des autres exposés et exposants. Aussi est-il probable que l'exposition est un mode d'action de ce qu'il est devenu convenu, banal, de nommer aujourd'hui la société du spectacle, un mode au même titre qu'Internet, la presse, l'audiovisuel, la publicité. Il est du reste sans doute possible d'indexer le degré de liberté d'un pays sur le nombre et le type des expositions qui s'y ouvrent, son degré de liberté réelle ou celui que les dirigeants du dit pays désirent accréditer dans l'opinion publique mondiale. Car exposer, c'est de multiples façons exprimer, donc dire, en effet. La liberté d'exposition est une forme de la liberté d'expression. Bien des artistes en ont fait l'expérience en temps de dictature. On peut être frappé de constater même que face à l'uniformisation de la communication, qui conjoint ce qu'on appelait jadis réclame d'une part et propagande d'autre part, l'exposition devient parfois le moyen de faire voir, de révéler, de dénoncer ce qui, sinon, ne le serait pas, ou peu, ou moins visiblement. L'exposition peut donc être un spectacle, c'est-à-dire un secteur de l'industrie des divertissements et loisirs, du côté du mainstream, du stéréotype culturel, de l'exploitation d'un patrimoine changé en argument de vente. Mais l'exposition peut être aussi un appel, un avertissement, une protestation. Pour cette raison, parce qu'elle est prise dans cette alternative, elle est un phénomène éminemment politique et social. On ne devrait, me semble-t-il, jamais perdre de vue ces enjeux. Et je suis bien certain que celles et ceux qui vont prendre la parole après moi ne sont pas susceptibles à aucun moment d'avoir perdu de vue ces enjeux politiques, sociaux et donc éthiques à bien des égards. Je change de vocation et, devenant président de séance, je donne immédiatement la parole à Laurence Bertrand d'Orléac, professeur à Sciences Po, comme chacun sait, et qui a été l'an dernier commissaire d'une exposition éminemment historique, politique et morale, L'art en guerre, France 1938-1947, et qui, comme vous le savez, je pense, s'apprête à ouvrir dans un peu plus d'un mois une autre exposition au Louvre-Lens, où les mêmes enjeux se retrouveront, je crois, au premier plan.